Guinée équatoriale et puis 19h Gambie, Tunisie, 19h également en temps universel Mali, Mauritanie. Tous ces matchs sont à suivre sur nos antennes. 9h10 à Paris, tout de suite Juan Gomez.
C'était le journal de Jeanne Bartoli.
Radio G 101.5 FM.
C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur 101.5 FM à l'écoute de Radio G. Bienvenue dans l'émission J'entends des voix, une nouvelle émission à plusieurs voix qui donne à entendre ce qui s'écrit, ce qui se dit, ce qui se lit et peut-être aussi ce qui se chante. J'entends des voix, c'est une demi-heure, deux fois par mois, le jeudi à 9h10, en semaine impair sur Radio G 101.5 FM et en podcastant sur radio-g.fr. J'entends des voix, c'est une thématique à travers des textes qui se suivent et ne se ressemblent pas, accompagnés d'une sélection musicale. Aujourd'hui, parce qu'il fait gris, on continue à voir la vie en vert. Pour ces 30 minutes à passer ensemble, il y a Valérie, Anne et Pascal. On commence avec le vert de la pelouse, celui qu'il nous tarde tant de retrouver.
Organisé en France, cet Euro de football s'est déroulé sans incident notable. Le seul couac, qui semble avoir été péniblement vécu par les joueurs, a concerné l'état des pelouses, souvent médiocres, parfois détestables, et comparé par certains journalistes à celui d'un champ de labour. Jardiniers, fournisseurs, municipalités, fédérations et autorités de tutelle se sont renvoyés la balle. Pour savoir qui était responsable. Apparemment personne, si l'on en croit les polémiques engagées. Au reste, l'euro est fini et cela n'est plus d'actualité. En revanche, un acte spectaculaire est à retenir qui a fortement marqué l'histoire du sport et celle de la couleur. Sur 3 stades, peu avant le coup d'envoi, on a peint à la bombe les zones de gazon par trop endommagées. Intervention hâtive et dérisoire, destinée non pas à améliorer l'état de la pelouse, mais à en donner une image bien verte aux téléspectateurs. Le grotesque est-il déjà allé aussi loin sur un terrain de sport ? En agissant ainsi, les initiateurs de cet acte risible n'ont certainement pas eu conscience que le vert de la pelouse d'un terrain de football remplissait une double fonction, à la fois pragmatique et symbolique. D'une part, grâce au gazon, amortir les chutes, adoucir les coups. De l'autre, par la couleur, rappeler que sur toute surface verte se décide le sort d'une partie. Nous retrouvons ici une des plus anciennes dimensions symboliques du vert, couleur du destin. J'y ai déjà fait allusion dans ce journal chromatique. Qu'il s'agisse des prés sur lesquels se déroulaient les ordalies et les tournois du Moyen-Âge, des tapis de jeu apparus au XVIe siècle, pour les cartes notamment, des terrains de sport modernes et même des tapis verts des conseils d'administration des entreprises, la signification est la même. Sur une surface verte, une décision est prise, un avenir se joue, la fortune choisit son camp. Cela est particulièrement vrai des terrains de sport. Le vert n'y est pas tant celui de l'herbe tendre et apaisante que celui du sort en train de se décider. Le tennis de table en est la confirmation la plus patente. Bien que se jouant à l'intérieur et n'occasionnant ni choc ni brutalité, il se déroule sur une surface verte. Comme se jouent sur un tapis de feutre les parties de billard. Comme ont lieu sur un lino ou sur un plancher vert un grand nombre de sports de salle. Le vert est la couleur du jeu et de l'enjeu. C'est pourquoi il est omniprésent dans le monde du sport.
rouge sang, le bleu du ciel, jaune le soleil. Au carrefour de ces sources naturelles, le vert hérite d'un élément aussi évident, mais plus varié et ambivalent, le végétal. De ces quatre origines chromatiques, il est d'abord le seul qui soit palpable. Ni au-delà du toucher, l'azur, le soleil, ni en deçà, le sang sous la peau, la verdure d'une algue, d'une tige, d'une forêt, reste en effet un fondement accessible, tactile, terrestre. Mais, première ambiguïté, par son large éventail de nuances, dans son enracinement naturel, du vert franc et vif d'une pelouse aux sombres épines du sapin, ce repère s'avère aussi le plus incertain et le plus instable, le moins figé, le plus éloigné du caractère absolu qui peut parfois émaner des trois couleurs primaires. Même si la rougeur organique subit aussi des variations, et si le jaune peut être déclinant, même si le bleu céleste évolue au cours du jour et de la nuit, le vert végétal offrirait ainsi, selon les différents stades de sa progression, des manifestations si diverses et modulées qu'elles impliqueraient aussi certaines contradictions. Vert des prémices, les premiers bourgeons, vert de maturation et de maturité, les feuilles de printemps, ou vert de décomposition et de pourriture. Voilà une référence qui annonce ou représente la vie comme la mort, en constant changement, mais de façon évolutive. Sans cesser de grandir, de vieillir ou de revenir, infixable et inflexible, cette couleur ne serait-elle pas celle de la croissance même, au sens où elle comprendrait sa décroissance, voire sa transformation? Plus qu'une couleur en devenir, elle incarnerait la couleur même du devenir sur Terre, au croisement de l'humus, de la lumière et de la pluie, comme un concentré d'extériorité en intime correspondance avec l'intériorité sanguine et exacerbée du rouge. Que peut-il alors se passer lorsque la civilisation et les arts s'emparent du vert? Lorsque de façon picturale, chimique ou textile, cette couleur profondément évolutive se retrouve inscrite sous une forme stabilisée et uniforme. Retranscrite autant que confisquée par la main de l'homme, selon la multiplicité des motifs et des textures qu'elle produit, plus qu'une couleur de l'équilibre, elle s'y révélerait comme une couleur de l'équivoque. Mélange non primitif de deux couleurs primaires et opposées, le jaune et le bleu, ni tout à fait chaude, ni tout à fait froide, à la croisée vacillante de la torpeur, de la tiédeur et de la fraîcheur, mais aussi de la vigueur et de la disparition, relié à son si proche contraire qui a pour nom le feu, la gelée de croissance qu'apportent les artifices humains, n'en ferait-elle pas la trace foisonnante d'une couleur qui accueille les autres quand elle ne les met pas en valeur, qui peut les retenir mais sans les absorber, se diversifiant au contraire à leur contact, à la lisière de nouvelles mutations? Au vert annexé serait associé un mouvement d'incorporation et de conversion, un peu comme si une foule d'éléments hétérogènes se retrouvait altérée en une substance homogène. Dès lors, devenue signe, couleur symbolique plus que le jaune ou le bleu, elle semble échapper à l'interprétation univoque. Éclat du calme et de l'espérance, sans doute, mais aussi de la perte, du luxe, du venin, de la ferveur ou de la langueur, de la putréfaction ou de la renaissance. Mais du vert en mouvement au vert délimité, et du vert incarné au vert carcéral, voilà un pas que l'homme a pu franchir dans sa mise au vert. Un pas dans un abîme, peut-être, lorsque le geôlier est aussi orfèvre et qu'il se nomme Alfred Hitchcock. Par lui, le vert tourne au vertige. Les troncs d'armes y dévoilent des spirales, et le corps de la femme y devient un joyau inaccessible.
Après un extrait de Michel Pastoureau dans « Une couleur ne vient jamais seule », Pascal a lu un passage de la revue Colorosa intitulé « Vert et envers ». Florent Guézingard, cinéphile et critique de cinéma, explore le vert avec minutie en s'attardant tout particulièrement sur la robe émeraude de Kim Novak, éblouissante dans la fameuse scène au restaurant de Vertigo d'Alfred Hitchcock. Un grand merci au passage à Florent qui a sorti pour nous ce texte de ses archives. Écoutons maintenant Anne nous parler de foot et de dollars avec à nouveau le spécialiste Michel Pastoureau dans Le Petit Livre des Couleurs, illustré par Dominique Simonet.
Il n'y a pas de hasard dans le choix des couleurs. Autrefois symbole de l'argent, c'était le doré et l'argenté qui, dans l'imaginaire populaire, rappelait le métal précieux des pièces de monnaie. quand les premiers billets de dollars ont été fabriqués, entre 1792 et 1863, le verre était déjà associé au jeu d'argent et par extension à la banque et à la finance. Les imprimeurs n'ont fait que prolonger l'ancienne symbolique. Si l'argent n'a pas d'odeur, il a bien une couleur. Les emblèmes des premiers clubs sportifs à la fin du 19e siècle étaient essentiellement noirs, rouges et blancs. Puis les couleurs ont évolué. Blanc et rouge, blanc et noir, blanc et bleu. En football, le jaune, Nantes, et le vert, Saint-Étienne, sont plus récents et nous viennent probablement de l'engouement pour les équipes d'Amérique du Sud. Dans les enquêtes d'opinion, le vert vient en deuxième position des couleurs préférées après le bleu. Et on l'associe maintenant à la gratuité, numéro vert. En fait, nos sociétés contemporaines ont entrepris une grande revalorisation du vert. Autrefois couleur du désordre et de la transgression, désormais couleur de la liberté.
Ce soir, c'est le tout premier match de la saison. Et Johnny Rep a les cheveux blonds. 45 000 personnes se tassent dans le chaudron. Et Johnny Rep enlève son pantalon. Un ange qui passe dans les vestiaires. Johnny Rep enfile son maillot vert. Ce soir, la lune escorte les champions. Et Johnny Rep affûte ses crampons. Ce soir, la foule n'en peut plus de chanter. Et Johnny Rep évite les croche-pieds. Ce soir, c'est sûr, on va voir trembler les filets. Et Johnny Rep n'en peut plus de dribbler. Ce soir, on joue à la maison. Et Johnny Rep demande le ballon. Ce soir, la pluie trempe les blousons. Mais Johnny Rep a marqué, c'est bon.
Saint-Étienne qui mène déjà 2-0, deux buts de Johnny Rep. Johnny Rep réussit d'ailleurs l'un des premiers doublés. Johnny Rep qui récupère le ballon en position d'arrière droit. Un Johnny Rep extrêmement défensif. Il laisse le ballon en retrait à Christian Lopez. Christian Lopez qui remet en retrait à Jean Castaneda. Castaneda qui relance immédiatement pour Gérard Janvion. Janvion qui change complètement de côté, qui donne à Gérard Farizon. Gérard Farizon à destination de Jacques Santini. Santini à Michel Platini. Michel Platini en profondeur pour Johnny Rep. Johnny Rep seul devant le gardien au point de pénalty. Et Johnny Rep qui marque le troisième but de l'équipe de Saint-Étienne. Il reste 8 minutes à jouer. L'équipe de Saint-Étienne est évidemment qualifiée pour le prochain tour de la Coupe de l'UEFA. Les Stéphanois qui mènent 3-0. 3 buts de Johnny Rep.
En hommage aux Stéphanois, nous venons d'entendre Johnny Rep, un titre de Mickey 3D, conseillé par Stéphane, un fidèle de l'émission, pour ne pas dire le plus fidèle. Et maintenant, une petite définition du vert par Michel Pastoureau, bien sûr.
Vert égale bleu plus jaune. Cette combinaison, apprise dès l'école maternelle, s'est révélée très tard. A longtemps persisté un tabou venu de la Bible sur les mélanges. On ne fusionne pas deux matières pour en faire une troisième. Il existait surtout un règlement professionnel très strict chez les teinturiers qui n'avait l'autorisation de fabriquer que certaines couleurs. Les cuves de jaune et de bleu ne se situaient pas au même endroit dans la ville, et personne n'aurait eu donc l'idée de les mélanger. Il faut attendre la découverte du cercle chromatique par Newton, au XVIIe siècle, pour qu'on situe le vert à mi-chemin entre bleu et jaune. C'est très récent à l'échelle de l'histoire. Le vert n'est donc en rien le mélange des symboles du bleu et du jaune, à la différence du roux, qui a longtemps associé les mauvais aspects du rouge et du jaune. Colère, péché, luxure d'un côté, mensonge, trahison, robe de Judas de l'autre. Le vert, c'est la couleur de Satan, du diable, des ennemis de la chrétienté, des êtres étranges, fées, sorcières, lutins, génies des bois et des eaux. Les super-héros et les martiens, grands et petits hommes verts de la science-fiction, s'inscrivent dans cet héritage culturel où le vert joue le rôle de l'ailleurs, de l'étrangeté, du fantastique. Pourquoi ? Parce que c'est une couleur instable, rebelle, très difficile à fixer chimiquement. Avec le vert, le rapport entre chimique et symbolique se révèle passionnant.
Au village de Claquebu, naquit un jour une jument verte. Non pas de ce vert pisseux qui accompagne la décrépitude de chez les carnes de poils blancs, mais d'un joli vert de jade. En voyant apparaître la bête, Jules Audouin n'en croyait ni ses yeux, ni les yeux de sa femme. « Ce n'est pas possible, disait-il, j'aurais trop de chance !» Cultivateur et maquignon, Audouin n'avait jamais été récompensé d'être rusé, menteur et gripsou. Ses vaches crevaient par deux à la fois, ses cochons par six, et son grain germait dans les sacs. Il était à peine plus heureux avec ses enfants, et pour en garder trois, il avait fallu en faire six. Mais les enfants, c'était moins gênant. Il pleurait un bon coup le jour de l'enterrement, tordait son mouchoir en rentrant et le mettait séché sur le fil. Dans le courant de l'année, à force de sauter sa femme, il arrivait toujours bien à lui en faire un autre. C'est ce qu'il y a de commode dans la question des enfants. Et de ce côté-là, Audouin ne se plaignait pas trop. Il avait trois garçons bien vifs et trois filles au cimetière, à peu près ce qu'il fallait. C'était une grande nouveauté qu'une jument verte et qui n'avait point de précédent connu. La chose parut remarquable, car à Claquebu, il n'arrivait jamais rien. On se racontait que Malauret dépucelait ses filles, mais l'histoire n'intéressait plus depuis 100 ans qu'elle courait. Les Malauret en avaient toujours usé ainsi avec leurs filles, on s'y était habitué. De temps à autre, les Républicains, une demi-douzaine en tout, profitaient d'une nuit sans lune pour aller chanter la Carmagnole sous les fenêtres du curé et beugler « Ah bah l'Empire !» À part cela, il ne se passait rien. Alors, on s'ennuyait. Et comme le temps ne passait pas, les vieillards ne mouraient pas. Il y avait 28 centenaires dans la commune, sans compter les vieux d'entre 70 et 100 ans qui formaient la moitié de la population. On en avait bien abattu quelques-uns, mais de telles exécutions ne pouvaient être que le fait d'initiatives privées. Et le village, sommeillant, perclus, ossifié, était triste comme un dimanche au paradis. La nouvelle s'échappa de l'écurie, zigzaga entre les bois et la rivière, fit trois fois le tour de Claquebu et se mit à tourner en rond sur la place de la mairie. Aussitôt, tout le monde se porta vers la maison de Jules Audouin, les uns courant en galopant, les autres clampinant ou béquillant. On se mordait aux jarrets pour arriver les premiers, et les vieillards, à peine plus raisonnables que les femmes, mêlaient leur chevrotement à l'immense clameur qui empilait la campagne. « Il arrive quelque chose ! Il arrive quelque chose !» Dans la cour du Matignon, le tumulte fut à son comble, car les habitants de Claquebu avaient déjà retrouvé la hargne des temps anciens. Les plus vieux sollicitaient le curé d'exorciser la jument verte, et les six républicains de la commune lui criaient « À bas l'Empire !» dans le nez sans se cacher. Il y eut un commencement de bagarre. Le maire reçut un coup de pied dans les reins qui lui fit monter un discours à la gorge. Les jeunes femmes se plaignaient d'être pincées, les vieilles de n'être pas pincées, et les gamins hurlaient sous les gifles. Enfin, Jules Audouin parut sur le seuil de l'écurie. Hilar, les mains sanglantes, il confirma. « Elle est verte comme une pomme !» Un grand rire parcourut la foule. Puis on vit un vieillard battre l'air de ses bras et tomber raide mort dans sa 108e année. Alors le rire de la foule devint énorme. Chacun se tenait le ventre à deux mains pour rigoler tout son soûl. Les centenaires s'étaient mis à tomber comme des mouches et on les aidait un peu, à bons grands coups de pied dans l'estomac. Encore un, c'est le vieux Rousselier. Un autre. En moins d'une demi-heure, il trépassa 7 centenaires, 3 nonagénaires, 1 octogénaire. Et il y en avait qui ne se sentaient pas bien. Sur le seuil de l'écurie, Audouin songeait à son vieux père qui mangeait comme 4. Et il se tournait vers sa femme pour lui faire observer que les plus à plaindre n'étaient pas ceux qui s'en allaient, mais bien ceux qui restaient. Le curé avait fort à faire d'assister les moribonds. Exténué, il finit par grimper sur un baquet pour se faire entendre par-dessus le vacarme des rires et déclara que c'était assez pour une première fois, qu'il fallait songer à rentrer chez soi. Le maquignon montra sa jument verte de face et de profil et chacun se retira, comptant jusqu'à l'os en songeant qu'il était arrivé quelque chose. Muni des sacrements, le vieux père de Jules Audouin décéda vers la fin de la soirée et on l'enterra le surlendemain en même temps qu'une quinzaine de vénérables. Il y eut des funérailles émouvantes et le curé en profita pour représenter aux fidèles que la vie est un bien fragile et méprisable. Cependant, la renommée de la jument faisait du chemin. Des environs et de Saint-Margelon même, qui était le chef-lieu d'arrondissement, les gens se dérangeaient pour l'admirer. Le dimanche, c'était un défilé ininterrompu dans l'écurie. Audouin acquit une véritable notoriété, son commerce de maquignon en alla mieux tout d'un coup, et à tout hasard, il prit l'habitude de suivre la messe régulièrement. Claquebu s'enorgueillissait d'une jument qui lui valait tant de visiteurs. Les deux cafés de l'endroit connurent une prospérité soudaine. Cela décida Audouin à se présenter aux élections municipales, et sur la menace qu'il fit aux deux cafetiers de vendre sa jument verte, ceux-ci lui donnèrent un concours qui fut décisif.
Pascal vient de nous lire l'incipit de La jument verte de Marcel Aimé, un roman sur l'identité érotique des familles et la transmission d'une sorte de patrimoine sexuel entre les générations. C'est aussi l'un des romans les plus drôles de Marcel Aimé et le premier qui fit sa célébrité.
Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout d'essai à la Century Fox. Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur mentaleau, cherchait du regard un spot... Le dieu protecteur. Et moi, je n'en pouvais plus. Bien sûr, elle ne m'a pas vue perdue dans sa mégalo, moi j'étais de trop. Elle marchait comme un chat qui méprise sa proie ou frôlant le flipper. La chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur. Elle en faisait un peu trop, la fille aux yeux mentaleaux. Hollywood est dans sa tête. Toute seule, elle répète son entrée dans un studio, le décor couleur mentaleaux. Perdue dans sa mégalo, moi je suis de trop. Mais un type est entré et le charme est tombé. Arrêtant le flipper, ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité. La fille aux yeux mentalos a rangé sa mégalo et s'est soumise aux yeux noirs couleur de trottoir. Et moi, je n'en pouvais plus. Elle n'en a jamais rien su. Ma plus jolie des mythos, couleur mentalo.
Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout d'essai à la Century Fox. Na, 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 na. Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur mentalo cherchent du regard un spot de dieu projecteur. Et moi je bien sûr, elle ne m'a pas vu, perdue dans sa mégalo. Moi, j'étais de trop. Elle marchait comme un chat qui méprise sa proie en frôlant le flipper. La chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblaient briser son cœur. Na, 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 elle en faisait un peu trop. La fille aux yeux mentalos, Hollywood est dans sa tête. Toute seule, elle répète son entrée dans un studio. Dans sa mégalo, moi je suis de trop.
rentrer et le charme est tombé, arrêtant le flipper. Ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre jukebox. Sa mégalo et se soumise aux yeux noirs, couleur de trottoir. Et moi je n'en pouvais plus, elle n'en a jamais rien su. Ma plus jolie des mythos, couleur mentalo.
Aucun doute, vous avez eu droit à la lecture de Couleur Mentalo d'Eddie Mitchell et vous avez écouté la version chantée juste après. Maintenant, un extrait de La Légende des Enfants Verts, un récit d'Olga Tokarczuk, prix Nobel de littérature en 2018. Il sera suivi d'une lecture du Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud par Valérie.
Elle dit que là-bas, dans la forêt, au-delà des marais, il existe un pays où la lune brille aussi fort que le soleil, qui lui est plus sombre que le nôtre. Dans ce pays, les gens vivent sur les arbres et dorment dans leurs crues. Durant la journée lunaire, ils grimpent au sommet des branches où ils exposent leur corps dénudé à la lune, de sorte que leur peau verdit. Grâce à cette lumière, ils n'ont pas besoin de manger beaucoup, se contentant de baies des bois, de champignons et de noix. Ils ne doivent ni cultiver la terre, ni construire des habitations. Tout travail est effectué par leur seul plaisir. Chez eux, il n'y a ni seigneur, ni paysan, ni prêtre. Lorsqu'ils doivent prendre une décision, ils se réunissent sur un arbre et délibèrent, pour ensuite mettre en œuvre ce qu'ils ont décidé. Si un individu s'y soustrait, ils le laissent faire, persuadés que tôt ou tard, il reviendra vers eux. Lorsque quelqu'un s'éprend d'une autre personne, il se met en couple pour un temps avec elle, mais dès que ses sentiments s'étiolent, il s'en va vers un nouvel amour. De ces unions naissent des enfants, qui ont toute la communauté pour parents, car tout le monde là-bas s'occupe volontiers des petits. Ils ont aussi leur propre façon de communiquer avec les animaux, et comme ils ne consomment pas de viande et ne pratiquent pas la chasse, les bêtes non seulement sont leurs amis et les aident, mais leur racontent leurs histoires, ce qui est source de sagesse pour le peuple vert et lui procure une meilleure connaissance de la nature. Parfois, lorsqu'ils grimpent sur l'arbre le plus haut, ils voient au loin notre monde, les fumées de nos maisons incendiées et sentent l'odeur de la chair brûlée. Vite, ils se réfugient alors sous les feuilles pour ne pas salir leurs yeux avec de telles images, ne pas incommoder leur nez de cette puanteur. L'éclat de notre monde les repousse et les indispose. Ils n'y voient qu'un mirage. Ils croient que nous sommes irréels, tel un mauvais rêve.
C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
Merci pour votre écoute. J'entends des voix, c'est terminé. D'ici là, podcastez dès maintenant sur radio-g.fr l'émission J'entends des voix. L'émission revient dans 15 jours pour écouter d'autres textes choisis pour vous et par nous. La semaine prochaine, c'est Tout compte fait, l'émission de découverte des contes pour tous les âges. La suite à l'écoute de Radio G, toujours sur 101.5 FM.
Radio G, 101.5 FM.
Particle of promises, baby empty bellies. Poverty and democracies and political rallies. But who the rich are lobbying for? Using it for votes. Pretending me you're sorry for them winning, it's a joke. I'm sick of trick-or-treaters in costume disguises, leaders, charismatic public speakers, false prophet and fake healers. I think they're perfect grammar scammers scamming us for votes. In front of TV camera with an innocent approach. No more lies and policies, one apologies. Trying to ask, please, when I squeeze on you upon your knees. Justice or else is the minute of Farrakhan. Some is stand up a yard and oath with my Glock up in my hand. If I take it literally, fuck it, geez, I'm kinda sorry. But smiley need for answer what them really do to pretty. Give me the microphone, I make me rep the innocent. Pain, recompense, and money spent to feed the government. Give me the microphone, get the people riled up. Too much fucker piled up, get the team them aisled up. Parallel universes in the same old hemisphere. Authorities, they don't care with them nose up in the air.
Cause I want them better for it. We gonna do that, make the youth them better for it. Cause I'm a fighter, yeah. If you want to put up your lighter, yeah. Them metaphoric, which are the things that make you use them metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah, eh. If you want to put up your lighter, yeah, eh, eh.
Make the syndrome get the fences, permeate them residences. Extend up to the trenches, up to where the president is. Karma on the ones and twos, yes, turn the tables. Had enough for you with the parables and tables. Jamaican bad gal, queen and revolutionary. Never quick to start a war, but shoot whenever necessary. Product of the inner city, where me come from, it not pretty. Survive the nitty gritty, ain't nobody taking pity. Survive a kind of tricky in New York, Cali and Philly. Are the same thing I go on down a Kingston.
Them metaphoric, we gonna do to make you use them metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah. If you are you put up your lighter, yeah. Cause our bombs them metaphoric, we gonna do to make you use them metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah. If you are you put up your lighter, yeah.
These are the days of the last days. On the last page of the book of the dark age. We are part ways with the oppressor, seek predecessor. Wake up and sisters, then we team up together. We will meet, we will meet on the battleground. Trade my microphone for a shakty and some papa sound. Just be ready when the gavel sound. Gonna fully grown fucks just around us, so we're never nervous. Was a mental war, now this shit turned physical. From long time scars, we are reap the residual. From slavery to now, now the thing get critical. Them can't kill with soul, cause them sights are spiritual. Sights are spiritual. So they be like, hey, credible on the sites with subliminal. Get them and then chastise them as criminal. Give you drugs and the guys, it's
finical. Cause I'm a bomb, then metaphoric. We got the team, make the youth, then metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah. If you want to put up your lighter, yeah. Cause I'm a bomb, then metaphoric. We got the team, make the youth, then metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah. If you want to put up your lighter, yeah.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Dans le monde du silence, je m'emmène. because you drink coffee and because I had only just left you at the Marseille train station. At the end of a long day in wounded silence. And whereas your expression had been vengeful as you kindly packed my luggage into a taxi we refused to share, your ghost didn't seem to hold a grudge. He simply took my shoulders in his tender, sun-kissed hands and said, "Honey, you look half dead. Come now with me."
Pants. I'm gonna run for government. I'm gonna form a covers band and all. Back there by the baby grand, did Mr. Winter Wonderland say, "Come here, kid, we really need to talk. Bear with me, man, I lost my train of thought." I call it quits. I swim with the economists and I get to the bottom of it for good. By the time reality hits, the chimes of freedom fell to bits, the shining city on the fritz. They come out of the cracks, thirsty for blood.
Look how far we come.
Look how far we have to go.
So many feet.
Water them and they will grow.
Even when
true colors they start to show.
Keep the faith.
Look inside and you will know.
They can't kill your vibe. Don't let them kill your pride. Keep your head up. Don't let them take you for a ride. But mine is suicide. So right now you decide. You'll have to pick a side. Open up another eye. Righteousness we preaching to the masses. Father said always keep practice. Leave the streets, don't get distracted. Don't get misled. I said look how far we come.
Look how far we have to go.
So many seeds. The faith.
Look inside and you will know.
Like a family, I them build me up, yeah. Well, one make me learn and one make me earn. Them build me up, why? Always said to me to live honorably. Look how far we come.
Look how far we have to go.
So many seeds.
Water them and they will grow.
Even when
true colors they start to show.
Keep the faith.
Look inside and you will know.
Look how far we go.
Look how far we have to go.
So many seeds.
Water them and they will grow.
Even when
true colors they start to show.
Keep the faith.
Look inside and you will know.
www.radio-g.fr.
For old folks, not for me. One husband, one wife, what do you got? Two people sentenced for life. I love singing, good, healthy, clinging, quietly bringing on a spree. Marriages for old folks, cold folks, not for me. One married he, one married she, what do you got? Two people watching TV. I am not ready to quit being free, and I'm not willing to stop being me. I gotta sing my song. Why should I belong to some guy who says that I'm wrong? Cooking dinner, looking no thinner, gray elbows in a sudsy sea. Marriages for old folks, cold folks, and it's not for me. One husband, one wife, what do you got? Two people sentenced for life. I'm exploding with youth and with zest. Who needs corroding in some vulture's nest? I gotta fly my wings, go places, do things. My freedom bell's really gonna ring. I've been through years, too many blue years. Now I want New Year's every eve. Marriages for old folks, marriages for cold folks. That's what I believe. One husband, one wife, what do you got? Two people sentenced for life.